Eh bien, depuis plusieurs années, on vous offre la possibilité, en tant que personne handicapée visuelle, d'avoir de l'aide, on peut considérer ça comme de l'acceptation au niveau de votre déficience visuelle. Jusqu'à présent, on appelait ça la formation gestion du stress. Ça fait un petit peu pour neuf. On va appeler ça maintenant accompagnement en relation d'aide. Et pour nous en parler, j'ai la psychopédagogue Jacinthe Sévigny. Bonjour, Jacinthe.
Bonjour René.
Donc, Jacinthe, encore une fois cette année, on offre la possibilité aux personnes qui ont une déficience visuelle, je le résume comme ça, tu me corrigeras, c'est dans le fond peut-être de mieux accepter ou mieux vivre avec leur déficience visuelle. Alors, j'aimerais peut-être ça que tu élabores davantage là-dessus, dans un premier temps.
Alors, ce que j'avais envie de partager ce matin, c'est que dans la condition de la personne handicapée visuelle, il y a le stress qui est quand même plus important, je dirais, que dans la population normale, entre guillemets. Et j'aimerais qu'on aborde les différents facteurs de stress. Il y en a quatre principaux. Et quand on en a plus qu'un, deux, là, on a besoin, à quelque part, d'apprendre des stratégies pour ramener plus de confort intérieur. Alors, si je nomme le premier facteur de stress, c'est toute situation, qu'elle soit environnementale ou relationnelle, qui est nouvelle. Par exemple, je rencontre une nouvelle personne, un nouveau médecin, un nouvel intervenant. Je rencontre la nouveauté dans ma situation de santé. Donc, tout ce qui est nouveau génère en nous une tension interne. Ce qui était imprévisible, là, ça augmente le niveau d'inconfort interne, ça augmente le niveau de stress. L'imprévisibilité par rapport à ma vision, par exemple, si je souffre de dégénérescence maculaire, je ne sais pas qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Et là, je rentre dans des stratégies de vérification à tous les jours, plusieurs fois par jour, je vérifie. Et on peut faire ça dans différents domaines de notre vie. Quand j'ai pas de contrôle, ben là, il va sans dire que quand on parle d'un problème de santé ou aller faire une activité, où là, j'ai pas tout en main pour savoir comment je vais me déplacer, qui va m'accompagner, est-ce que ça va bien aller avec la bénévole que j'ai, est-ce que la personne va en faire trop ou pas assez avec moi, je la connais pas, donc j'ai pas de contrôle. Ça, c'est le troisième facteur. Et si on additionne déjà ces trois facteurs-là, on peut sentir que la tension augmente, c'est nouveau, c'est imprévisible, j'ai pas de contrôle. Et si en plus on risque de me critiquer ou de me juger, que ce soit par des amis, des professionnels, par des parents, alors là, la tension est à son maximum. Si quand les quatre facteurs de stress sont réunis, évidemment, là, j'ai besoin d'apprendre des stratégies pour savoir comment on fait pour faire descendre le niveau de stress. Ce qu'on s'aperçoit avec quand on a beaucoup de stress, c'est que on rentre dans l'évitement, c'est-à-dire, oh, ça me tente plus là, de faire des sorties, ça me tente plus de rencontrer des nouvelles personnes, ça me tente plus de faire telle chose. Donc, on rentre dans une situation qui nous amène en plus d'isolement. Alors, l'évitement, et ça se comprend très bien là, on n'a pas envie d'être tout le temps mal puis d'être tout le temps stressé, donc on évite. On s'isole, mais on perd aussi en qualité de vie. Alors, comment on fait pour être au mieux en continuant à vouloir faire face aux défis de la vie et en même temps de faire face aussi au fait que, ben oui, ça me stresse, mais et quel niveau de stress je suis capable de prendre et quand mon stress est trop élevé, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour diminuer le stress?
Et
Alors, c'est les
pourquoi?
moyens, l'accompagnement, oui.
Oui, et pour moi, c'est ça. Et dans le fond, pourquoi là, t'appelles ça accompagnement en relation d'aide?
Parce qu'on va, l'accompagnement, ça veut dire apprendre des moyens pour d'abord reconnaître, prendre conscience qu'on est dans une situation qui génère du stress. Ensuite, comment on peut aborder cette situation-là et d'en parler à quelqu'un dans un cadre confidentiel comme avec moi, ça peut être aidant. Parce que des fois, on en parle à nos amis, à nos parents qui parlent, qui pensent comme nous. Et des fois, d'avoir une vision extérieure, une autre façon de voir ça pour que le stress diminue de plus en plus et qu'on soit de plus en plus en mesure de s'exprimer, de dire nos choses et d'apprendre à se détendre physiquement. Alors, quand on travaille, quand les gens viennent travailler avec moi, ceux qui sont déjà venus le savent, quelquefois on fait du travail corporel, je guide des méditations ou des visualisations, tous des moyens comme la communication non violente, on en parle aussi régulièrement. Comment je fais pour dire à quelqu'un que je suis pas content de la façon dont il m'aide, par exemple? Donc, la première étape, c'est d'accueillir la bonne volonté de l'autre, de bien faire, mais des fois, la personne n'est pas au fait qu'il faut pas qu'elle en fasse trop non plus, parce que ça devient envahissant. Donc, comment je dis à l'autre que je veux pas me faire envahir, par exemple? Donc, il y a des moyens aussi qu'on peut regarder ensemble pour que ça se passe au mieux. Et puis le stress se manifeste aussi de façon... On peut se dire, moi, il me semble que je ne suis pas tellement nerveuse, je ne suis pas tellement stressée. Par contre, le corps va parler. Peut-être que j'ai des problèmes digestifs, des maux de tête, des maux d'estomac, des maux de ventre. Mm-hmm. Peut-être que mon mental est très agité. Je peux avoir des pensées qui tournent en boucle dans ma tête. J'ai peut-être des difficultés à dormir. Ça, ce sont tous des symptômes. Des symptômes qui me parlent que peut-être que j'aurais besoin de me faire aider à prendre des stratégies pour réguler mon stress et non pas éviter des situations de vie par peur de vivre du stress, mais plutôt, OK, là, j'ai des moyens, donc je peux me mettre au défi d'aller vers les autres ou d'aller vers des activités où des fois, j'ai pas le choix d'aller dans des situations où il faut bien que je le rencontre, mon ophtalmologiste ou etc., mais qui va me permettre aussi de mieux sentir que j'ai le contrôle sur ces situations-là.
D'accord. Et tu parlais tantôt les gens qui ont déjà fait des rencontres avec toi. On offre aussi la possibilité peut-être des personnes qui auraient besoin, je vais dire dans un refresh, mettons, peut-être une ou deux rencontres, on est très ouvert à les accueillir.
Oui. Alors, les gens qui veulent revenir me voir parce qu'il y a une situation particulière qui s'est passée dans leur vie ou parce qu'ils veulent approfondir quelque chose, sont vraiment les bienvenus. Ça me fait toujours plaisir de les revoir puis de pouvoir continuer à aider là, s'ils sentent que ça peut être bénéfique pour eux de revenir. Aussi, il y a un nouveau projet qui est d'accueillir les parents qui ont des enfants handicapés visuels et qui vivent des stress, évidemment, et qui sont préoccupés par le devenir de cet enfant-là. Mmh. On peut aussi faire... c'est un nouveau projet là qui va être mis sur pied pour aussi permettre à ces gens-là de venir parler, on dit dans le jargon, ventiler, c'est-à-dire nommer, et puis de voir quelles sont les ressources dont ils peuvent bénéficier, à la fois les ressources internes surtout, mais aussi, des fois, on n'est pas tout au fait de tout ce qui se passe. Il y a des ressources externes qui existent aussi.
Et ça, évidemment, d'abord, il faut savoir que ces formations-là sont gratuites. Évidemment, c'est limité au niveau de premier arrivé, premier servi. Évidemment, il y a une limite. Mais d'autre part aussi, c'est important qu'il ait mentionné, c'est gratuit. Les gens doivent être membres du RPHV. Et pour les parents d'enfants, c'est la même chose. Les parents peuvent devenir membres chez nous à ce moment-là. On pourra te les référer. Et justement, parlant de la façon de fonctionner, pour y avoir accès, explique-nous rapidement comment ça fonctionne.
Alors, pour y avoir accès, on a d'abord à s'inscrire au RPHV, devenir membre, comme René, tu viens de le dire. Alors, le numéro de téléphone pour le RPHV, c'est dans le 88, le 649-0333. Mm-hmm. 88-649-0333. On fait 5 rencontres en présence ou par téléphone, dépendamment de votre goût d'être là ou de la possibilité que vous avez d'être là ou pas. Et des rencontres sont au nombre de 5. On pense à un minimum de 5, mais ça peut être moins. Si quelqu'un est déjà venu me voir puis en a besoin de 1, 2 ou 3, c'est correct aussi. En même temps, ça nous permet de faire le tour des choses. Les gens qui m'ont jamais contacté, la première rencontre, c'en est une pour sentir si je suis une personne qui peut vous accompagner. Alors, c'est ça qui est la première étape importante. La première, c'est est-ce que j'ai, je me sens à l'aise de dire mes choses, est-ce que je me sens confortable avec cette intervenante-là. Et puis à ce moment-là, on décide la poursuite, puis on planifie. Des fois, je ne rentre pas en contact, peut-être c'est bon de le préciser, je ne rentre pas en contact dans l'heure qui suit où j'ai reçu les numéros. Donc, mais d'habitude, je réponds quand même assez rapidement.
Bon, ben Jacinthe, on va se regarder aller, puis en espérant que les gens vont adhérer à ce service. Je te remercie beaucoup.
Ben, bonne journée à toi, René.
Merci.